personnage extraordinaire dans l'œuvre de Giono sur Fréquence Mistral Digne 99.3 avec et par Jean-Louis Caribou.
Ce sont des extraits que j'ai choisis dans l'œuvre de Giono pour illustrer le thème étant personnage extraordinaire dans l'œuvre de Jean Giono. Alors extraordinaire, ça peut être extravagant, ça peut être exclu, parce que c'est vrai que l'œuvre de l'écrivain Jean Giono est truffée de personnages qui sortent de l'ordinaire, donc le terme de extraordinaire peut convenir. Ces lectures de textes, ce sont des textes que, avec la troupe de théâtre amateur dont je m'occupe, qui est une troupe de l'association Handicap Évasion 04, qui s'appelle les Baladins de la Jaulette. Cette troupe de théâtre, depuis 25 ans, a adapté et a joué des adaptations de l'œuvre de Giono. Alors, d'abord, le scénario du film Crésus, adapté pour le théâtre, que nous avons joué 5 fois. Ensuite, une adaptation du roman de Giono, Regain, que nous avons joué 10 fois. Et dernièrement, juste avant le confinement, une adaptation du roman de Giono, Que ma joie demeure, que nous avons joué 5 ou 6 fois. Donc en tout, 21 fois. Et notre dernier spectacle consiste à proposer une rétrospective avec des petites scénettes extraite de ces 3 adaptations, toujours en mettant en valeur des personnages extraordinaires qui interviennent dans ces adaptations, mais en même temps de les agrémenter et de les compléter par des lectures de textes concernant le même sujet, les personnages extraordinaires. Et c'est le thème de notre mission aujourd'hui et de la série qui suivra, quelques lectures de textes extraites de l'écrivain Jean Giono pour illustrer ce thème, les personnages extraordinaires, extravagants, exclus, ex dans l'œuvre de Giono.
Eh bien merci Jean-Louis, on vous écoute.
Alors le premier texte que je vais proposer est un texte extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Fausto Village, que Giono a situé dans le Trièves et qui ont été publiés pour la première fois en 1950. Ce texte s'intitule La Croix. Dis-moi, Catherine, il paraît que c'est toi qui loges les 3 garçons qui sont arrivés hier soir ?
Oui, ils ont mis le pied sur ma porte en même temps que la lune.
Qu'ont-ils fait de la grosse croix de bois qu'ils portaient ?
Oh, ils l'ont couché contre le mur de la chambre et je les soigne.
Sont-ils bien malades ?
Ils sont jeunes et ils ont des carcasses.
Mais le blond a l'épaule droite écorchée et le sang qui coule est noir.
Le gros s'est profondément coupé entre lui parce qu'il est gras comme un thon, quoique bien bâti. Il est sur son lit, les jambes écartées. Le petit est sec comme un sarment. C'est celui qui a le mieux résisté, à part les pieds. Les orteils sont comme des murs. Ils m'ont dit qu'il venait de loin, de l'autre bout de la France. Tu sais où c'est ?
Oh, plus de 1000 kilomètres d'ici, du côté de l'Espagne.
J'économisais l'électricité. J'avais laissé ma porte ouverte pour la lune. J'ai entendu marcher dans le chemin.
Qui portait la croix ?
Oh, ce devait être le petit noir. Le blond est entré le premier. Son épaule blessée lui donnait, à contre-jour, l'air de quelqu'un qui porte un carnier chargé. J'ai cru qu'il était de la région. À la voix, j'ai compris qu'il était de loin.
Comment s'annonçait-il ?
Oh, poliment. Il disait qu'ils étaient 3 portant une croix à la salette pour la paix. J'ai allumé l'électricité. J'ai vu sur son épaule le sang comme une selle. J'ai dit, arrêtez-vous ici. D'ailleurs, j'ai vite mis la poêle au feu et jeté un bout de lard à fondre. Il n'y était que 2, le blond et le gros. J'ai voulu faire entrer l'autre avec sa croix.
Elle pourra difficilement entrer, m'a dit le blond. Elle est sur le modèle exact de celle qu'a portée le Christ.
Je ne m'étais pas rendu compte de l'énormité de l'ustensile.
Tu as été étonné ?
Oh, je me suis extasié. Le petit noir est très costaud. Il a pris la croix par le corps et il en a embroché les bras dans la porte. Elle a passé, mais une fois tournée, elle s'est coincée d'un côté sous l'évier et de l'autre dans la pendule. J'ai dit, ne poussez pas, ça va me bousiller l'horloge, tenez bien. Le gros s'est mis dessous pour soutenir. Moi, j'ai essayé de déganger la branche qui s'était coincée dans l'étagère de mes assiettes sales. C'était un madrier pour un faîtage de grange. Mes mains glissaient dessus comme sur du savon. À force de pousser, J'arrive enfin à encrocher un angle avec mes ongles et, quitte à me les arracher, je t'assure que je te protège mes assiettes. J'ai réussi à donner un peu de biais et à dégager mes étagères, mais, comme toujours, il s'en fallait d'un millimètre pour que ça passe. Sans ce millimètre, ça restait coincé et j'avais beau forcer, tout ce que j'arrivais à faire, c'était à secouer mes assiettes. Je dis, tirez un peu de votre côté, les gars. Je t'assure que c'est ce qu'ils font. J'entends clac et brouf et vas-y, une dégringolade de vitres. Je me dis, et voilà la pendule. Moi, la façon dont il avait fallu que je m'y prenne pour faire le peu que j'avais fait, m'avait mis dans une telle posture, entre les pieds de la table, le dossier d'une chaise et la branche de la croix, que je ne pouvais même pas relever la tête et me rendre compte des dégâts. De toute façon, il ne fallait plus parler de cadran, j'imagine. Et tout de suite après, j'entends le balancier qui dégringole. En même temps, il donne à la croix une sacrée secousse. La branche que j'avais pris tant de peine à dérocher s'enfonce en plein dans mon étagère et j'entends craquer mes assiettes comme si c'était des noisettes. Je crie. Je reçois l'arête du madrier en pleine figure. J'essaie de lutter avec les mains. Le poids de tout cet instrument me renverse. Je m'allonge sur le parquet. Et si le coin du madrier ne me défonce pas la poitrine, c'est qu'il défonce mon tabouret et que je me trouve protégé sous les selles de la croix. En même temps, j'entends ma lampe électrique qui sonne contre le plafond et la lumière se met à faire de grandes vagues. Je dis « Attention les gars !» et ils me répondent « Nous n'en sommes plus maîtres !» Là-dessus d'abord, une odeur d'enfer. Puis, le lard que j'avais mis à la poêle s'enflamme. Du coup, je nous vois tous rôtis et je crie comme le perdu pour qu'ils s'occupent un peu de ce qui était sur le feu. « Enlevez la poêle !» Mais de leur côté, ils devaient être aussi drôlement emberlificoté, car je les entends d'abord souffler comme des phoques. Ça sentait de plus en plus roussi. Je me tortillais comme un ver, mais la croix m'embrassait comme si c'était le soir de mes noces. Je me dis, tu vas voir, c'est ta dernière heure et celle de ton bien. Tout va partir en fumée. La grange au-dessus était pleine de foin. Je leur dis d'attraper la cruche et de noyer la poêle. C'était une poêle perdue, mais dans ce cas-là, tu sais, on est tout de suite décidé à faire la part du feu. Ils étaient en train de fourgonner, je ne sais pas quoi, et la croix me serrait la taille comme si elle en voulait. Enfin, ils arrivent à prendre la cruche et ils m'arrosent les jambes. Je leur crie « la poêle, pas moi !» Ils me disent « Mais si, madame, votre robe a pris feu !» En effet, c'était mes cotillons et même je me sens mordu aux cuisses. Je te repousse alors cette croix de toutes mes forces, je t'assure que j'allais bien coup. J'étais debout en un clin d'œil. La lampe du plafond valdingue, l'horloge tombe, écorche la batterie de cuisine qui se décroche. Le blond reçoit un coup de croix sur la tête et s'assoit dans les casseroles. Heureusement, le noir craquait comme un ressort de voiture, mais tenait bon. Et il arrive vaguement à étirer la croix contre le rebord de la table. Repos. C'était plein de fumée puante, mais plus de flamme. Mon jupon était rossi jusqu'aux genoux. Rien n'était beau, mais à côté de la peur que j'avais eue, c'était pain béni. Eh bien, mes garçons, on peut dire que votre croix, c'est une bonne idée. Ça a fait du travail. Oh, ne croyez pas que je puisse la tenir longtemps, dit le petit noireau. Ou alors, aidez-moi, parce qu'elle recommence à me gagner. Le gros a une idée de génie et il cale la croix en mettant une chaise sur la table. Ah, nous pouvons un peu souffler. J'en profite pour me rendre compte que mes trois bols bleus sont en miettes. Je n'ose même pas regarder mon horloge, mais il ne me faut qu'un coup d'œil pour voir qu'un grand éclat noir a fait sauter tous les mailles du cadran où était si joliment peint un bouquet de roses et un perroquet. Je ne cherche même pas à savoir où sont les aiguilles. En tout cas, il n'y a plus de risque pour le grenier à foin pour l'instant. Ma poêle est foutue, mais des poêles, on en rachète. Je pense avoir le temps de refaire mon chignon et en effet, je l'ai. Quand je suis un peu rafistolé, j'y vais de mon petit discours et je leur parle gentiment pour savoir, somme toute, exactement de quoi ils retournent. Ils me répondent aussi très gentiment. C'est une croix pour la paix du monde. Ils ont tous les trois de beaux yeux. Le blond les a clairs comme de l'eau, Le noir les a noirs et le gros les a bleus comme des bleuets. C'est une idée que les garçons ont eue. Ils ont d'abord tous travaillé à faire la croix très solide pour qu'elle dure longtemps et exactement de la taille de celle qu'a portée Jésus, même un tout petit peu plus grosse. Faut ce qu'il faut. Ils ont cherché un sanctuaire éloigné. Ils le volaient aussi très haut dans la montagne. Ils ont trouvé la salette. Alors, les garçons qui ont été désignés pour faire la chose se sont chargés la croix sur l'épaule et ils sont partis. Ils étaient trois parce que, malgré tout, il s'agit de ne pas se prendre pour le premier boutardier du pape. Ce que j'ai trouvé être un bon sentiment. Ils m'ont parlé des villes qu'ils ont traversées et des fleuves qu'ils ont passés sur des ponts et des montagnes qu'ils ont escaladées puis descendues pour remonter sur d'autres. Ça me plaisait beaucoup. Je n'osais pas parler encore du sang que le blond aux yeux clairs avait sur sa chemise, mais je me connais, je me disais « ça viendra ». Ils m'ont tout expliqué, pendant que tous les quatre, nous étions là, appuyés sur la croix, qui s'appuyait sur ma chaise, qui s'appuyait sur ma table, qui s'appuyait sur mon parquet, et où il y avait pas mal de choses en miettes. Sans compter l'horloge, mais celle-là, je n'osais pas la regarder. Tout ce que je savais, c'est qu'elle faisait tête contre le mur du fond et que c'était un piton de ma batterie de cuisine qui l'empêchait de s'allonger carrément par terre. Ça aussi, je l'avais appris d'un clin d'œil. Je leur dis, mes enfants, savez-vous ce que je vais faire? Non? Bien, je vais aller chercher monsieur le curé. Ce n'est pas qu'il soit très costaud, mais un de plus ne sera pas une mauvaise chose, d'autant que, tout compte fait, c'est son affaire. On ne peut pas le laisser hors de la question. Dehors, il faisait une sacrée lune. Alléluia, me suis-je dit. Monsieur le curé n'a pas été d'un grand secours. Il levait les bras au ciel et répétait « Comme c'est émouvant !» Je l'avais pris à sa pipe du soir. Il se réveillait difficilement. Toutefois, je les ai laissés un bon moment discuter entre eux. Les femmes ont un rôle à jouer, mais pas tous, et il faut qu'elles sachent rester dans la coulisse. Pourtant, à la longue, ça n'en finissait plus. Je suis rentré en scène. Il y a une chose, j'ai dit, à laquelle il faut penser. J'avais mis du lard à fondre. Il pouvait devenir de la suie. Il pouvait devenir omelette. Il est devenu de la suie. Il s'agirait de refaire le coup, mais pour qu'il devienne omelette, qu'est-ce que vous en dites? Oh, tout de suite, ça intéresse les trois garçons. L'odeur du lard est toujours très importante pour quelqu'un qui a du sang dans les veines. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec la croix au milieu? Le fait est, Catherine, dit monsieur le curé, qu'avec ça dans les jambes, vous ne pouvez guère vous bouger. La croix du Seigneur, comme c'est émouvant. Je dis, naturellement, pas question de la mettre dehors. Mais naturellement, répondent-ils. Alors, j'ai là à côté une très grande chambre. Si elle peut passer par la porte, on va l'enfiler là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils en pensent tout à fait comme moi, tellement que si je n'avais pas dit doucement les basses, ils finissaient de me casser ce qui était resté entier. Je leur ai fait comprendre que la première fois, on s'était laissé attraper, mais que si on se laissait attraper une seconde, on serait de fameuses couanes. Ils y ont mis un savoir-faire. Nous t'avons pris cette croix en poids, tous les quatre. Elle a viré sans rien toucher. Le bras droit a passé un poil dans la lampe électrique pendant que le bras gauche caressait mon étagère de verre à pied. La tête a frôlé le portrait de mon pauvre mari, ras des moustaches, et s'est mise droit dans la porte comme un pigeon voyageur. Cette croix a passé, mon ami? Oui. Mais tu vois ça, Catherine, c'est plutôt des trucs de plein air. Voilà pour la croix qui a été publiée en 1950 pour la première fois dans la série de nouvelles intitulée « Faust au village ».
Merci Jean-Louis pour ce premier rendez-vous. Personnage extraordinaire dans l'œuvre de Giono sur Fréquence Mistral Digne 99.3 avec et par Jean-Louis Caribou. Le prochain rendez-vous, ce sera mercredi 14 juin, exceptionnellement, à 9h30. Pour une seconde lecture de texte, Jean-Louis Caribou, je vous demande de nous donner le sujet de mercredi 14 juin.
Oui, d'accord. Alors, ce sera, comme aujourd'hui, le sujet concernant les personnages extraordinaires dans l'œuvre de Jean Giono. Et là, donc, aujourd'hui, c'était un extrait de La Croix, un texte lu entièrement. Mais la prochaine fois, il s'agira de petits extraits du roman de Giono qui s'intitule « En monde et autres caractères ». Et là, il s'agit d'un personnage qui est vraiment extraordinaire, En monde, qui est extraordinaire parce qu'elle est absolument démesurée, non seulement dans son corps, mais aussi dans ses passions. J'ai choisi quelques petits extraits glanés ici et là dans le roman pour donner un aperçu un petit peu désopilant et rigolo de ce personnage qui sort vraiment du commun, En monde.
Rendez-vous donc mercredi 14 juin à 9h30 sur 99.3. Merci.